Lire ou raconter la Bible en se limitant au titre principal de la conférence, les membres de cette assemblée pourraient à juste titre reprocher au comité de programmation du Centre culturel chrétien de commettre le sophisme du faux dilemme. En effet, on peut difficilement opposer dans la vraie vie lecture ou parole. Le sous-titre, heureusement, qui suit le titre de la soirée, dissipe un peu le malentendu. Il précise « Approche historique et narrative de la Bible ». Ceux qui pratiquent la première approche, l'historico-critique, nous auraient peut-être suggéré, pour comprendre le sens, le titre de la conférence de ce soir, de remonter dans le temps et de revoir les procès-verbaux du comité de programmation pour comprendre ce qui a mené à la forme actuelle, lire ou raconter la Bible. Les seconds, les adeptes de la méthode narrative, quant à eux, auraient peut-être trouvé que le texte suffit en lui-même pour donner le sens de la soirée. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas ici réduire les différences entre nos deux invités, qu'il me suffise maintenant, pour l'instant à tout le moins, de les présenter. Tous les deux, vous aurez deviné, sont spécialistes des Écritures. Ils ont fréquenté des lieux de haut savoir exégétique. Le plus près de moi, Michel Gourgues, est diplômé de l'École biblique de Jérusalem, alors que Pierre Letourneau, un peu plus loin, l'est de l'Institut biblique pontifical. Nos deux conférenciers sont aussi professeurs titulaires dans des facultés. Michel Gourgues au Collège universitaire d'Ottawa et Pierre Letourneau à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université de Montréal. Tous les deux ont à leur actif plusieurs publications. Si vous me permettez, je ne mentionnerai que leur plus récent ouvrage, le titre de l'ouvrage écrit par Michel Gourgues, « Ni homme, ni femme, l'attitude du premier christianisme à l'égard de la femme, évolution et régression ». Ça pourrait mettre un peu de piquant au débat actuel. Sur la charte. Et le second ouvrage, celui-là écrit par Pierre Letourneau, plus technique mais non moins important, « Initiation au grec du Nouveau Testament, de l'alphabet aux phrases complètes ». Tous les deux ont en commun d'avoir travaillé, entre autres, les évangiles synoptiques et la tradition joannée, en plus de bien d'autres choses, évidemment. Et la liste des ressemblances pourrait s'allonger. Pourtant, les deux se distinguent par leur façon d'aborder le texte sacré. Michel Gourgues, dominicain, a adopté la méthode historico-critique qui a pris son essor au 19e siècle et qui s'est développée au siècle dernier. Pierre Letourneau, lui a préféré des approches structurelles, narratives et littéraires, un peu plus récentes. Si vous me le permettez, conformément à la chronologie de ces approches, je donne maintenant la parole à Michel Gourgues, qui nous entretiendra de sa méthode, après quoi nous entendrons Pierre Letourneau. Michel Gourgues.
Merci, Marc. Bonsoir, tout le monde. C'est un sujet bien austère dont nous avons à parler ce soir. Nous avons à parler de l'approche historique qui, le plus souvent, est désignée depuis le 19e siècle, depuis la fin du 19e siècle, de son nom savant, la méthode historico-critique. Pour caractériser d'un mot, en simplifiant un peu, cette approche se distingue par le fait que, pour elle, la référence à l'histoire constitue un élément essentiel pour la lecture et la compréhension d'un texte, et le texte de la Bible comme les autres. Alors, je pensais, plutôt que de caractériser cette approche de façon abstraite, je vous propose, pour commencer, de procéder par comparaison à partir d'un exemple contemporain. Il y a un mois et demi, on a célébré le 50e anniversaire de la Grande Marche sur Washington, qui s'est déroulée le 28 août 1963 en faveur de l'égalité des droits civils aux États-Unis. C'est alors qu'on a pu entendre le discours fameux de Martin Luther King, qu'on considère comme le plus influent discours qui ait été prononcé au 20e siècle en sol américain. Ce discours-là, on peut l'analyser d'un point de vue strictement littéraire, comme une pièce de rhétorique. On peut le démonter en cherchant à identifier les procédés qu'il met en œuvre pour convaincre, en étudier le style, en repérer une alternance d'appels à la raison, à la passion, à l'émotion. Et il suffit de lire le texte, même une première fois, pour être frappé par certains procédés qui sont utilisés. Par exemple, cette façon, la récurrence d'un bout à l'autre du discours de formules répétitives en nombre sans cesse croissant. 4 fois au début, 100 years later. Il faisait référence 4 fois à la Déclaration des droits civiques par Abraham Lincoln, la proclamation d'émancipation, qui, elle, avait été proclamée exactement un siècle plus tôt, en 1863. Puis ensuite, 4 fois, « Now it is time ». 5 fois ensuite, « We can never be satisfied ». Puis 6 fois, « Go back to Louisiana, go back to Mississippi, go back to Georgia, to, etc. » Puis ensuite, 7 fois, le fameux « I have a dream » qu'il avait improvisé sur place en sortant de son texte. Puis, tout cela culminait dans la répétition reprise 8 fois, « Let freedom ring ». Eh bien, cette approche littéraire du discours est parfaitement valable et évidemment très éclairante, c'est bien évident. Cependant, il reste que ce discours que j'étudie n'avait rien d'un exercice de style. Ce n'était pas un morceau de rhétorique peaufiné dans un lazy-boy, ni une simple déclaration de principe abstrait. Si j'ignore les circonstances dans lesquelles il a été prononcé, il me semble qu'il nous manque un élément essentiel. Les circonstances, c'était, vous le savez bien, tout un enchaînement, un déclenchement successif de soulèvements, de protestations multipliées depuis des mois contre l'inégalité subie par les Noirs américains. Et au-delà des 250 000 personnes qui participaient à la Grande Marche sur la capitale, au-delà d'eux, par-dessus leur épaule, Luther King savait très bien qu'il s'agissait de convaincre une nation et un gouvernement sur les convaincre de l'urgence d'un changement. Et face à l'impatience, à l'exaspération d'un auditoire très conscientisé, et si on peut ainsi parler, chauffé à blanc, eh bien, il fallait empêcher que cela ne dégénère dans la violence physique, éventuellement dans une guerre civile. On a rappelé à la fin d'août que le président Kennedy était rivé à son écran de télévision et très nerveux. Pour l'approche historico-critique, il en va de même pour la Bible. C'est-à-dire, par exemple, je ne peux pas lire, prenons un exemple, l'Épître aux Galates de saint Paul, comme une espèce de réflexion théologique abstraite détaché sur le salut en Jésus-Christ, ou pour prendre ses termes à lui, la justification par la foi. Si je prête attention au contexte historique, je suis amené à lire la lettre aux Galates comme un écrit de combat, comme une protestation indignée de Paul au cœur d'une situation de crise, où il estime qu'est mise en cause ce qu'il appelle la vérité de l'Évangile. On a l'habitude de caractériser la méthode historico-critique, l'approche historique, et la plupart du temps pour lui en faire grief, comme celle qui pratique une sortie du texte ou du récit qu'elle étudie. Au lieu de s'en tenir au contenu du texte, à ses composantes internes, elle sort du texte et elle est amenée à y introduire, certains diront à y projeter, des éléments extérieurs dont il n'est pas question dans le texte ou dans le récit lui-même. Eh bien, moi, ça ne m'offusque pas. Je pense que c'est là le trait majeur de la méthode historico-critique, effectivement. Cette façon qu'elle a de sortir du texte de différentes manières en direction de l'histoire, non, ce que je disais au début. La référence à l'histoire est un élément essentiel pour la lecture et la compréhension d'un texte, quel qu'il soit. Pour qui ce texte a-t-il été écrit? Pourquoi? Par qui? Dans quelles circonstances? Et en quoi, de savoir cela, ça peut éclairer la forme et le contenu du texte? Alors, je vous propose, pour ne pas rester dans l'abstrait, non, je vous propose d'examiner ensemble, à partir de quelques exemples concrets, quelques-unes des manières dont s'opère cette sortie du texte caractéristique de l'approche historique. Alors, j'ai trois exemples. Trois exemples, vous les avez sur les feuilles que vous avez recueillies à l'entrée. Hein. Premier exemple, premier type de sortie du texte, c'est donc de sortir du texte en direction de ce qui l'a précédé. Alors, j'évite les termes techniques. Je devrais dire ici la tradition, mais évitons les termes techniques. Hein. Donc, en direction de ce qui l'a précédé. Je prends cet exemple-là parce que nous venons de parler de, je viens de mentionner l'Épître aux Galates. Eh bien, restons-y. Restons-y et essayons de voir, à partir d'un texte, un premier type de sortie, donc, du texte pratiqué par l'approche historique. Alors, à partir du milieu du chapitre 2 de l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 15, peu importe, jusqu'à la fin du chapitre 3, donc un très long développement, on trouve donc un long développement centré sur la figure d'Abraham. Et en s'appuyant sur le récit de la Genèse, Paul souligne que Abraham a été justifié par la foi. Abraham crut en Dieu et ce lui fut compté comme justice, hein, ce que dit le livre de la Genèse. Et le livre de la Genèse dit encore que, en plus d'avoir été justifié lui-même personnellement, Abraham a reçu de Dieu une bénédiction et une promesse, mais à l'adresse cette fois de ses descendants. « En toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Alors, Paul argumente, hein, c'est une longue argumentation, un chapitre et demi, pour montrer que les descendants d'Abraham, qui sont bénéficiaires donc de la bénédiction, de la promesse qui avait été faite à ses descendants, ce sont tous ceux qui, comme lui, croient, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens. Or, dit-il, ça se réalise dans la foi au Christ, qui n'est plus la foi d'un seul peuple, mais la foi de gens de partout. Alors, je vous invite à prendre la dernière... Vous comprenez, je n'ai pas mis tout le développement, j'ai mis seulement la fin, à partir du verset 23. Vous voyez, la dernière partie du développement. Alors, si on regarde, on voit qu'à la fin du développement, on trouve une proclamation bien frappée à trois mots. Il n'y a plus... Vous voyez, c'est le texte qui est en italique dans vos feuilles. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme, il faudrait dire ni mâle, ni femelle, hein? Télu, arsène, ce sont les termes qu'il emploie. Or, quand j'étudie ce texte, je constate que par sa forme, par son style très rythmé, vous voyez, ni, trois fois, cette proclamation-là détonne par rapport au reste du chapitre. Alors, ça m'amène, vous voyez, à l'identification d'une forme particulière. C'est comme si vous avez une amie à qui vous écrivez, puis à la fin de votre lettre, vous dites « Ma chère André, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. » L'autre reçoit ça, puis elle dit, « Comment? Quatre syllabes chaque fois? C'est pas elle qui a écrit ça. » Elle a pris ça quelque part. Vous voyez, l'identification d'une forme qui détonne par rapport au reste d'une lettre banale, par exemple. En outre, on observe que c'est seulement le premier membre, il n'y a plus ni juif ni grec, qui est pertinent dans l'argumentation de saint Paul. Le reste, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme, ça ne joue aucun rôle dans l'argumentation. Donc, on se dit, on fait l'hypothèse, vous voyez, on fait l'hypothèse de l'utilisation d'une source. On sort du texte pour remonter à ce qui a pu le précéder. Est-ce qu'il se pourrait que Paul fasse référence à une proclamation déjà existante qui ne sent pas le besoin d'expliquer parce que ses correspondants la connaîtraient et dont il prolonge la citation au-delà du passage dont il a besoin? Comme si je continuais, quand j'écris « Ma chère André, c'est à ton tour », je disais « Le temps que l'on prend pour dire je t'aime ». Ça n'a aucune pertinence, vous voyez, mais une fois parti, je continue comme ça. Alors, on est amené à sortir du texte de Galates pour aller vérifier s'il n'y aurait pas ailleurs, dans le Nouveau Testament, les échos d'un tel formulaire. Vous voyez, c'est la vérification de la source. Et je vais, et je constate qu'effectivement, ça se trouve à deux autres passages, dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13, puis dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 11. Première observation, il n'y a plus ni juif ni grec. Et là, je vois que dans ces deux passages, comme dans l'Épître aux Galates, c'est en rapport avec le baptême que cette formule-là est citée. Voyez, comme ici, au verset 27, « Vous tous baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Ah, alors mon hypothèse dit, « Ah oui, ça doit être un emprunt, et plus exactement, ça doit être l'emprunt d'un formulaire baptismal. » Ça peut donc dire que je suis amené, voyez, à remonter avant saint Paul, et à me dire, la première aux Corinthiens, citez ça déjà, la première aux Corinthiens est antérieure à l'Épître aux Galates. C'est une de celles dont la date est la plus sûre, 55. Donc, vous voyez, 30, 55, 25 ans exactement, une génération. Ça voudrait dire que lors du baptême, la toute première génération chrétienne aurait proclamé comme une espèce de nouveauté, hein, entre nous, devant Dieu, dans le Christ, il n'y a pas de différence. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme. Dans le Christ, les distinctions, les inégalités entre nous ne comptent plus, qu'elles viennent de l'origine religieuse ou raciale, de la condition sociale, esclave ou homme libre, ou de la différence sexuelle. Eh bien, vous ne vous en doutez peut-être pas, mais là, je vous ai épargné les grands mots, hein? Mais dans le jargon des exégètes, et dans ce cas-là, ils parlent allemand, eh bien, ceux qui ont contribué à mettre au point la méthode, il faudrait dire que l'attention à la forme, vous voyez, ça c'était la forme Geschichte qu'ils appelaient, non? Du texte, m'a conduit à remonter aux sources, à la tradition. Ils appellent ça la tradition du Geschichte. Et là, jusqu'au milieu où le texte a pris naissance, ce qu'ils appelaient le Sitzimleben. Mais oubliez ça pour ne pas vous mélanger. Hein? Si vous avez compris le reste, ça suffit. Deuxième exemple de sortie du texte. Cette fois-là, en direction non pas de la tradition, vous voyez, ce qui a précédé de Paul, mais en direction de la communauté à qui Paul s'adresse, la communauté destinataire. Alors, de nouveau, vous avez au verso, vous voyez, la référence à un autre texte de saint Paul. Il s'agit du chapitre 11 de la première aux Corinthiens. C'est un chapitre un peu mystérieux, parce que les Corinthiens savaient très bien de quoi Paul parlait, mais nous, c'est difficile. Et les exégètes aimeraient bien savoir exactement, hein, de quoi il est question exactement. Toujours est-il que ce qui apparaît plus clairement, Paul parle des rassemblements de prières de la communauté de Corinthe, donc dans des maisons privées, hein, ça devait être... Et il affirme que les femmes peuvent tenir un rôle identique à celui des hommes. Vous voyez, au verset 4, « Tout homme qui prie ou prophétise. » Verset 5, « Toute femme qui prie ou prophétise. » Donc, rôle identique. Seulement, il insiste pour que, si leur rôle est identique, qu'ils aient une tenue différente. Et c'est là qu'il multiplie les arguments pour convaincre les femmes de porter quelque chose sur la tête, ce qui, dans l'Église catholique, s'est fait jusqu'à Vatican II. Hein? Eh bien, on voit que les arguments de Paul... Alors, regardez comment j'ai mis la chose. Vous avez donc le texte, et j'ai mis en italique et sur la colonne de gauche les arguments, ce qu'on pourrait dire, les principes, hein, les affirmations de principe, les justifications théoriques. Puis, en caractère droit et vers la droite, la pratique, ce qui concerne la pratique. Mettez-vous quelque chose sur la tête, etc. Or, on voit que dans le premier argument au verset 3, « Je veux que vous le sachiez, le chef de tout homme, c'est le Christ », puis ensuite au verset 7b, vous voyez, à l'italique encore, et 8, Paul fait référence à l'Écriture. Il argumente à partir de l'Écriture, plus exactement à partir du chapitre 2 de la Genèse, c'est-à-dire le deuxième récit de la création, selon lequel l'homme a été créé avant la femme. Or, Paul se sert de ce texte-là pour affirmer la préséance de l'homme sur la femme, ou à l'inverse, la subordination. Il ne parle jamais d'infériorité, hein? La subordination de la femme par rapport à l'homme. Or, tout à coup, ce qui est encadré, on constate qu'à partir du verset 10, tout à coup, l'argumentation, il y a comme un renversement de l'argumentation. Là, Paul dit que, regardez, verset 11, « Aussi bien dans le Seigneur, ni la femme ne va sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Alors ça, c'est Galates 3, 28, que nous, dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Puis après ça, regardez, « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, aussi bien l'homme naît par la femme, et ça aussi vient de Dieu. » Autrement dit, vous voyez, deux types d'arguments. Un premier fondé sur l'Écriture, où là, il se réfère à l'ordre originel de la création. Deuxième argument, disons la nature, hein, la création continuée. S'il n'y a pas de femme, il n'y aura pas d'homme. La femme vient avant l'homme. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est ce que je constate quand je lis le texte. Mais je ne peux pas ne pas être intrigué. Et je dis, mais comment, pourquoi ce renversement pour arriver à convaincre les gens de la même chose? Mettez-vous quelque chose sur la tête. Pourquoi ce grand renfort d'arguments à partir de l'Écriture, à partir de la nature? Eh bien, ces deux types d'argumentation, donc, je dis, est-ce que ça ne s'expliquerait pas par la composition de la communauté de Corinthe? Est-ce que si on sort du texte de 1 Corinthiens 11, et si on va ailleurs dans la lettre, et dans la deuxième aux Corinthiens éventuellement, est-ce qu'il est dit là qu'il y a quelque chose de la diversité de la communauté? Oui, bien sûr. Hein? Étais-tu juif? Étais-tu circoncis quand tu as reçu l'appel? N'étais-tu pas circoncis? Etc. Donc, il y avait des chrétiens d'origine juive, des chrétiens d'origine païenne. Les historiens de l'époque, les historiens juifs, Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie, nous disent qu'une femme juive ne sort jamais en public sans se couvrir la tête. À plus forte raison, sans doute, dans une assemblée de prière publique. Dans ce cas-là, on imagine facilement la situation. Des chrétiennes d'origine juive avaient gardé l'habitude de la synagogue. On se couvre la tête pour prier. Des chrétiennes d'origine païenne, qui n'avaient jamais connu ça, ne portaient rien. Et ça créait des tensions. Paul dit, « Hey, on ne va pas diviser la communauté pour un détail pareil. » Mettez tout un peu d'eau dans votre vin, et puis mettez-vous quelque chose sur la tête. Et pour les femmes juives, vous y tenez, ce sera un signe de subordination. Respectez l'ordre de la création. Dieu, le Christ, l'homme, la femme, comme dans Genèse 2. Pour les femmes païennes, il dit, regardez verset 10, « Voilà pourquoi la femme doit avoir sur la tête un signe d'autorité. » Alors, il dit, vous autres, vous vous distinguerez, ce sera que la femme peut participer, contrairement à ce qui se passait à la synagogue. Oui. Alors, ce recours à l'histoire m'indique qu'il ne faut pas absolutisé les arguments de Paul, ni la pratique qu'il cherche à instaurer, et c'est bien évident. Si Paul avait pénétré dans nos églises en 1950 et qu'on lui avait dit, voyez ce que les femmes observent à cause de ce que tu... Je ne disais pas ça pour vous autres. Je pensais à Madame une telle, puis Madame une telle, Madame une telle, à Corinthe. Je n'ai jamais dit ça dans les autres communautés non plus. C'était pour eux autres, pour... Ah bon, vous voyez, ça relativise l'importance. Hein? Il ne s'agit pas donc d'une pratique à portée universelle qui découle de la foi en l'Évangile, mais d'une pratique adaptée à telle communauté particulière, à tel moment particulier de son histoire. Troisième indice, Marc va commencer à me faire des gros yeux, alors là je cours un risque. Je risque de m'exposer à un atterrissage un peu turbulent. Eh bien, je vous propose de considérer en dernier, comme troisième exemple de sortie du texte, une série de passages où il est question de la soumission des femmes à leur mari. Ce sont ces passages qui valent à Paul sa solide réputation de misogynie. Hein? Alors, ces passages, vous les avez reproduits à la page 3 des feuilles. Hein? On a d'abord trois textes de tradition paulinienne, Colossiens 3, Éphésiens 5 et l'Épître à Tite 2. Puis, on en a un autre qui est d'une autre tradition, de la première Épître de Pierre. Or, ce que je constate quand je regarde ces trois passages, c'est qu'ils disent tous la même chose et exactement dans les mêmes termes. Vous voyez, c'est toujours le même verbe « hupotasso ».« Hupo » en dessous, « tasso » comme « tagma hein, »,« ordonné ». Donc, en latin, on dira « sub » en dessous, « ordinare », ou en français « subordination ». On ne parle jamais d'infériorité, hein, on parle de subordination. Et alors, donc, les femmes, soyez soumises, faudrait dire subordonnées, si on voulait coller au grec, à votre mari, mais ce n'est pas plus intéressant de toute manière. Hein? Alors, je constate que c'est l'uniformité du témoignage interne. Trois textes de la même tradition, ça c'est moins frappant, mais un autre qui n'est pas de la même tradition, qui dit les mêmes choses dans les mêmes termes. Je suis intrigué par ça. Et je me pose la question, mais cette prescription, est-ce qu'il l'a fait au nom de la foi? Est-ce que c'est quelque chose qui découle de l'Évangile? Ou bien s'il l'a fait au nom d'autre chose? Est-ce qu'il y avait, voyez, là nous allons sortir en direction du contexte socioculturel. Est-ce qu'à cette époque, Paul était le seul à dire « Femmes, soyez soumises à vos maris »? Ah bien là, le moindrement que je sors, j'en trouve à la douzaine. Tout le monde disait ça. C'est comme nous aujourd'hui. « Enfants, soyez soumis à vos parents », ça nous apparaît encore une évidence. Peut-être que dans deux siècles, on passera pour des vieilles lunes, hein, avoir pensé ça. Nous autres, ça ne nous pose pas de problème, ça. Mais c'était à l'époque. Alors, je regarde, et là, je vais voir. Donc, je constate l'uniformité du témoignage interne, c'est-à-dire intérieur au Nouveau Testament. Je vais voir des auteurs profanes. Par exemple, un qui est exactement contemporain, Plutarque, hein, du côté grec. Puis, deux autres contemporains aussi, mais juifs. Philon d'Alexandrie, un peu antérieur, puis Flavius Joseph, un peu postérieur à Paul. Or, je constate qu'ils disent exactement la même chose et dans les mêmes termes. C'était donc un cliché socioculturel. C'était donc. Et donc, ceci m'amène à conclure que, voyez, quand c'est Flavius Joseph ou Philon d'Alexandrie, ils essaient de justifier la soumission de la femme qui s'impose dans la société de l'époque par un recours à l'écriture, voyez, l'étayer en quelque sorte par l'écriture. Tandis que Plutarque, lui, recourt plutôt à des arguments de nature. Hein, l'homme est plus fort que la femme, c'est tous les arguments là, qu'on a souvent entendus. Hein. Donc, il devient clair alors que, selon l'ordre socioculturel d'alors, la soumission de la femme allait de soi. Exactement comme, au même titre que la soumission des enfants à leurs parents. La preuve, c'est que 3.19, « Femmes, soyez soumises à vos maris », 3.19b, « Les enfants, soyez soumis à vos parents », puis 3.21, « Esclaves, soyez soumis à vos maîtres ». Vous voyez, c'est un ordre social.
Encore une fois, on parle de subordination, pas d'infériorité. On ne dira jamais ça. En tout cas, pas les textes de Paul. Jamais on ne dirait ça. Vous voyez, la subordination, c'est simplement un ordre social. Alors, ça n'implique pas nécessairement l'infériorité. Moi, je suis soumis, je ne sais pas, moi, Madame Marois, hein, mais peut-être que j'en connais plus qu'elle sur la méthode historico-critique. Hein. Je ne suis pas nécessairement inférieur à tout point de vue. C'est pas l'infériorité, ça. Hein. Alors, donc, conclusion, cette sortie vers le socio-culturel m'empêche de dire ça, c'est une chose qui découle de la foi elle-même. Ça ne découle pas de la foi elle-même, et de nouveau, ça m'empêche d'en faire quelque chose d'absolu qui vaudrait pour tous les temps et pour toutes les latitudes. On m'avait demandé de parler des limites de la méthode. Hein? Eh bien, je n'ai pas besoin de m'étendre. Il y en a. Il y en a, c'est évident, et elles ont souvent été dénoncées. On pourrait continuer. Et si nous en avions le temps, nous procéderions de la même manière pour montrer les limites et les risques bien réel de la méthode historico-critique. Ils sont évidents. Puisqu'il y a sortie du texte en direction de l'histoire, le premier risque, c'est de noyer le texte dans l'histoire. C'est bien évident. Hein? Le danger, c'est d'en venir à accorder plus d'importance à l'histoire qu'au texte lui-même. S'appliquer de retracer, par exemple, derrière le texte, les sources du texte, puis là, de dire, bien voilà, tel péricope dans Marc, eh bien, ou encore, je ne sais pas, dans Jean, hein, le père Boismard qui a passé sa vie à Jérusalem, a dénombré Jean 1, Jean 2, Jean 2A, Jean 2B, Jean 3, toutes les couches successives. Très bien, mais une fois que j'ai fait ça, est-ce que je suis plus avancé? Et ce texte-là, il n'est pas là pour ma curiosité, simplement, de trouver comme ça des strates littéraires successives. Il est là pour faire vivre des gens. Pour des croyants, c'est la parole de Dieu qui a un sens encore pour nous. C'est évident. L'historico-critique peut s'enfermer dans un monde, vous voyez, de détectives, et puis qui n'a pas tellement d'intérêt en définitive. D'où je n'ai aucune difficulté à admettre que la méthode historico-critique a tout avantage à s'ouvrir aux autres méthodes plus littéraires, parce qu'elles, comme les autres, doivent commencer par l'étude du texte lui-même. Alors, les autres méthodes apportent beaucoup pour la compréhension et la lecture des textes. Le seul problème, c'est qu'on n'a qu'une vie et qu'on ne peut pas tout faire. Et pour ma part, j'ai toujours regretté de m'être limité à ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Non pas que je ne connais pas un petit peu, mais des options et tout. Alors, je laisse la place à Pierre.